Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bien. Alors, je vais faire un petit récapitulatif puisque nous avons évoqué tout à l'heure. Eh bien, que nous avions déjà une première partie, parce que ça suit, hein, bien sûr. Il y a une suite, et c'est complémentaire. C'est quelque chose d'important de pouvoir, lorsque nous entrons dans une méditation ou une étude, hein, eh bien, de pouvoir aller jusqu'au bout, tout simplement. Alors, je vous propose une première lecture dans le livre de Paul, Lettre de Paul aux Galates, au chapitre 2 et au verset 9. Voilà, alors Galates, verset 9. Ça va nous donner une petite indication sur le sujet que nous allons méditer. Galates 2, 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est Paul qui parle, et il a été reconnu par son environnement, ses disciples de Jésus, par les chrétiens de son temps. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas, c'est-à-dire Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas, écoutez bien la suite, la main d'association. L'Église n'est pas une association du monde, mais l'Église est une association chrétienne, spirituelle. Alors on retient cela, et ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Ils se donnèrent la main d'association. Et puis, nous allons prendre maintenant dans Romains, chapitre 12, et nous allons voir de quoi il s'agit. 12, au verset 6, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, chacun d'entre nous a reçu quelque chose. Je voudrais le dire et le marquer. Selon la grâce qui nous a été accordée, c'est un cadeau, c'est un présent, ce n'est pas un dû. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, selon l'enseignement que l'Évangile nous laisse, l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et que tout se fasse sans hypocrisie, c'est-à-dire une arrière-pensée. Il y a, à travers cette énumération, la différence parmi les hommes chrétiens qui ont fait une expérience avec Jésus-Christ, une unité dans la diversité et dans, tout simplement, l'unité. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle, c'est ce qui s'appelle l'unité de l'esprit. Et encore une fois de plus, selon l'analogie de l'enseignement de Jésus, on n'a pas besoin de recourir à des livres de piété, des ouvrages philosophiques, religieux, il y en a. Parce que ce sont des dons qui sont reçus par grâce. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui les a donnés, comme il a choisi les uns et les autres, que nous soyons hommes ou femmes, peu importe. Ça, c'est important. Et puis, je voudrais, avant d'aller plus loin, avant d'entrer dans notre prochaine étape, rappeler les 5 ministères dont. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Alors, je vais les rappeler tout simplement. Selon la définition de 1 Corinthiens, chapitre 12, où il est dit ceci. Il y a d'abord l'apôtre, qui est une sommité, mais il n'est pas plus que les autres. Mais néanmoins, le don qu'il a reçu, c'est un don qui est tout à fait particulier, parce que c'est un missionnaire et c'est un pionnier qui va défricher, implanter, créer des églises là où jamais l'évangile n'a pénétré. C'est tous ces hommes qui sont partis soit en Afrique, ou au Moyen-Orient, ou dans les Amériques, et qui, à travers les siècles, eh bien, ont apporté le message de Jésus-Christ. Alors je voudrais dire aujourd'hui que, avec les moyens modernes, eh bien, tous ceux qui touchent un peu à l'informatique, nous sommes tous des apôtres, quelque part, sans voyager tranquille dans notre fauteuil. Voilà, en quelque sorte. Parce que nous prêchons à travers ces moyens modernes. Et c'est ce qui fait, finalement, et ce que nous pouvons peut-être assimiler à ce que Jésus dira à ses disciples, là, après sa résurrection. Il dira, mais allez jusqu'aux extrémités de la terre. C'était difficile dans le temps, hein, parce que ça comportait des risques dans des pays souvent hostiles, barbares. Hein, et combien d'apôtres ont été malmenés, voire éliminés, hein. Il y a eu des choses terribles. Ça, c'est l'apôtre, l'envoyé missionnaire pionnier, en quelque sorte. Il y a le prophète. Alors, ne pas confondre avec les prophètes de l'Ancien Testament, qui recevaient par révélation un message pour le peuple d'Israël. Et celui qui prophétise encore de nos jours, dans nos églises, n'est pas forcément un prophète. Il prophétise, mais ce n'est pas forcément un prophète. Alors le prophète, c'est quelqu'un qui est inspiré, celui qui parle de la part de Dieu. Il reçoit une inspiration qui peut être finalement une révélation. Mais, en quelque sorte, à la différence de l'Ancien Testament, c'est que le prophète ne dicte pas, comme dans l'Ancien Testament, tu feras ceci, tu feras cela. Il n'apporte pas, finalement, eh bien là, quelque chose de nouveau. Il reçoit de Dieu et il parle de la part de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a l'évangéliste. L'évangéliste, il y en a parmi nous, il n'y en a pas assez. C'est-à-dire que nous pouvons l'être dans un ministère dont, mais nous sommes tous quelque part des évangélistes lorsque nous prêchons, ou lorsque, prêchons, un grand mot, nous rendons témoignage autour de nous. Mais l'évangéliste, c'est un don, c'est autre chose. Il prêche l'évangile dans son aspect précis, c'est-à-dire que son message est concentré sur le salut par grâce. Il prêche une personne unique, la personne de Jésus-Christ, et le résultat attendu, c'est la repentance et la foi de ceux qui l'écoutent. C'est un ministère. Et puis, il y a le pasteur, le berger, hein, on l'a chanté tout à l'heure, dont la fonction est la prédication dans un lieu adressé, par exemple ici, hein, ou dans d'autres villes, peu importe. Et il prêche, c'est-à-dire qu'il commente les textes de la Bible. Il apporte un enseignement pour des gens qui ont entendu parler par l'évangéliste de Jésus-Christ, qui ont cru en Jésus-Christ, et lui va prendre la suite en quelque sorte. Il va être l'accompagnateur de tous ces gens qui se tournent vers Dieu. Et dans le but, et ça c'est important, de rassembler et d'unir. Ça, c'est essentiel. Parce que on ne développe pas une œuvre pour ensuite l'amener à une division. Parce que ce n'est pas notre œuvre. Parce que ce n'est pas l'œuvre ni de l'évangéliste, ni du pasteur, mais c'est l'œuvre de Dieu à travers le pasteur et l'évangéliste. Et on ne touche pas au corps de Christ. Je dirais que celui qui apporte le trouble en portera la peine. C'est ferme, hein ? Ah oui, ça ne plaisante pas. Les situations peuvent durer pendant des mois, pendant des semaines, peut-être même pendant des années, mais à un moment donné, les choses sont réglées. C'est pour ça que Paul dira, mais je viens vers vous, avec vous, je viens vers vous avec crainte et tremblement. Non pas qu'il a peur des hommes auxquels il va s'adresser, mais il a peur de ne pas remplir sa mission, de ne pas pouvoir remplir jusqu'au bout sa mission. Donc, rassembler et unir, de conduire et de rassurer, ça c'est le travail du berger naturellement. Et puis, en cinquième plan, il y a le docteur. Alors, qu'est-ce qu'un docteur? Il ne vient pas avec son stéthoscope. Imaginez-vous que là, moi, je viens de vous voir et puis je prends votre tension, le tensiomètre, et puis tout le reste. Puis après, au passage, je vous fais une petite piqûre. Pourquoi pas, Mais la prédication, c'est une forme de rappel et de piqûre. De piqûre et de rappel. Voilà, de toute façon. Alors, il est détenteur. Écoutez bien, parce que c'est bien de savoir. Parce que, vous savez, on lit ça à la volée dans la Bible. Vous avez lu votre Bible combien de fois? Vous avez certainement compris grossièrement ce que ça veut dire. Mais Paul prend le temps de bien détailler les choses. De qui on parle? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa fonction? Quel est son titre? Quelle est sa tâche? C'est quelque chose de sérieux de remplir un ministère. C'est pas du fonctionnariat. C'est pas tout simplement être dans la pensée d'être un mercenaire, comme dans la parabole de Jésus, du bon berger. Les mercenaires, ils rentrent pas par la porte, ils rentrent par la fenêtre. Et ils sont ravisseurs. Et ils le font à leur profit pour avoir un peu de gloire, on en parlera. Donc, le docteur est un détenteur d'un certain savoir. Dieu lui a donné une connaissance aiguë, une connaissance approfondie de la parole, de l'évangile, de la personne de Jésus-Christ, qui contribue au développement de la connaissance et à la croissance de l'Église. Un docteur, c'est un pasteur enseignant. Eh oui, et quelquefois c'est très étonnant parce que, quand on les entend, ça nous est arrivé, quelquefois on peut l'être nous-mêmes, sans toujours le savoir, en disant, mais c'est incroyable, Dieu m'a conduit sur une pensée, je ne l'avais pas méditée jusqu'à maintenant, et je viens de découvrir une chose qui m'est, pendant des années, j'étais resté à côté. Il a fallu que cet homme, finalement, me parle de telle et telle manière qu'il ouvre, en quelque sorte, une fenêtre sur un texte que je n'avais pas compris comme ça. C'est extraordinaire, Ah ouais, c'est formidable. Donc, tous ces dons, ce sont des dons qui sont liés à la parole de Dieu. Ils parlent tous, vous avez remarqué. L'apôtre parle, le prophète parle, l'évangéliste parle, le pasteur parle, le docteur parle. Après, on va voir une autre dimension. Il y a d'autres services, on en parlera. Alors, il y a le discernement de chacun de ces ministères. Nous avons besoin, c'est ce que nous allons faire ce matin. Ces cinq-là qui sont des dons de Dieu. Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et tout ce que vous voulez. Et puis, ce que nous allons ouvrir comme nouvelle page aujourd'hui, parce que là, on n'en parle pas de trop, et pourtant, ils sont constitutifs de l'Église de Jésus-Christ depuis 2000 ans. C'est ce qu'on appelle, un autre volet, c'est ce qu'on appelle les anciens. Ce n'est pas des ministères dons, c'est des ministères, on peut dire, des services d'inspiration, que celui qui aspire à être, voilà, ceci et cela. Et il y a, alors ça va peut-être vous surprendre, mais bon, on ne va pas faire trop de confusion, mais je vais vous donner quelques réponses. Il y a l'évêque. Alors, bon, peut-être que vous me direz, je suis un évêque, mais je ne suis pas venu avec ma mitre. Et puis mon brassard, là, vous savez, où il y a marqué CGT. Non. non, excusez-moi, je plaisante, mais vous me connaissez de toute façon.
CGT, c'est...
Bravo! Bon, ben écoute, cet après-midi, on va faire une petite manifestation. Parce que si vous voulez chercher des manifestations, on a pas mal en ce moment. Il y a de quoi faire. Bon, enfin, merci, Martine, c'est gentil. J'avais pas pensé à ça, c'est bien. C'est une. Elle est docteur. Une connaissance. Alors, ces dons-là, il y a le don de diacre aussi. Enfin, le service de diacre. Qu'est-ce qu'un diacre? Qu'est-ce qu'un évêque? Qu'est-ce qu'un un frère ancien? Un ancien? Qu'est-ce que sont les membres du CA? Je crois que vous avez eu dernièrement une assemblée générale. Moi, je n'étais pas là, puisque on était au congrès. Mais Qu'est-ce que ça veut dire? On vit les choses, on connaît les choses, on partage ces choses, mais on ne sait pas toujours quelle est la place des uns et des autres. Eh oui. Alors c'est vrai que quelquefois, ce qui peut être troublant, c'est que tout ça s'interpénètre. Alors on se dit, mais un pasteur, un docteur, un membre du CA, ceci, qu'est-ce que c'est exactement, hein? Mais ce sont des dons de grâce, hein, de toute façon. Personne ne peut dire, eh bien moi, j'ai reçu ça, cette capacité, j'ai reçu cette possibilité parce que je mérite. Alors bannissez de votre tête, si c'est pour vous ou si c'est pour quelqu'un d'autre, on ne mérite rien. On est sauvé par grâce. Et on a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu nous a préparées. Voilà. Ça, c'est l'enseignement que l'on donne aux pasteurs aussi, hein, pour savoir que quelquefois, il faut qu'ils marchent au milieu de la route et pas dans le fossé. Parce qu'on peut avoir des ailes. Hein. Et on en parlera. Ces trois dons, ce sont le don d'ancien, d'évêque et de diacre. Alors, ce sont des dons tout simplement, pour l'ancien et l'évêque, on en reparlera tout à l'heure, des dons de supervision. Ils aident le pasteur en titre, le pasteur qui est reconnu. Et c'est le pasteur qui va les faire reconnaître à l'Église, au moment des élections, comme vous avez eu dernièrement. Voilà, tel frère, ceci, fait cela, etc. Et puis il y a les dons de service, mais matériels, ce sont les diacres. Et il n'y a pas de honte finalement, à dire, ah ben moi j'ai la plus petite place, je suis en bout de course. Mais non, pour Dieu, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce n'est pas la quantité de choses, ou le titre, ou la hauteur, la position qui est la nôtre qui est importante. C'est d'être fidèle là où Dieu nous a donné quelque chose. Il ne demande pas plus, hein, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, je crois que c'est l'apôtre Jean ou l'apôtre Jacques qui nous dit, prenez garde, vous qui apportez la parole. Parce que vous serez jugé beaucoup plus sévèrement. Eh oui, de toute manière. Et l'objectif de tout ça, c'est un rappel, hein. C'est la gloire de Dieu, c'est le salut de l'homme, et c'est l'établissement du royaume de Dieu dans le monde, tout simplement. Alors voilà, donc, on en reparlera d'ici quelques instants. J'aimerais maintenant, eh bien, ouvrir tout simplement l'explication sur les dons spirituels. Les dons spirituels ou les dons de service surtout, hein, parce qu'on avait vu les dons de la parole. Qu'est-ce qu'un ancien? Alors vous en avez, hein, vous avez des anciens qui sont là dans l'église, autant à Redon qu'à Saint-Nazaire. Et je pense qu'il y a un beau passage dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui nous dit que la sagesse est dans le grand nombre de conseillers. Eh oui, ce qui veut dire que quand il y a un conseil d'anciens, quand il y a un conseil spirituel particulièrement, ne séparons pas ce que Dieu a uni. Un conseil, ça dépend de l'importance de l'Église, mais il peut y avoir 7 personnes, toujours des chiffres impairs naturellement, hein, et en fonction de l'importance. Un ancien, on va essayer de définir. Le mot ancien est la traduction d'un mot grec qui peut être rendu par épiscope, qui a donné aux Amériques particulièrement, l'Église épiscopale. Parce qu'il y a une vision particulière. Vous savez qu'il y a une multitude et une diversité, hein, dans les églises, je dirais, protestantes, évangéliques, etc. Et nous voyons que c'est, en quelque sorte, c'est un pasteur, enfin, pardon, c'est pas un pasteur, c'est un évêque qui veut dire surveillant et plus précisément veillant sur. Donc quand vous avez des frères anciens, on ne dit jamais évêque, nous, pour nous. Parce que l'ancien, c'est la personne, et l'évêque, c'est la fonction. Toutes les deux réunies. Voilà. Alors, on ne va pas trop s'arrêter là-dessus, mais c'est important. Et c'est vrai que la responsabilité d'un ancien, c'est particulièrement, eh bien là, de surveiller, de veiller, d'accompagner, d'encadrer. C'est une tâche de supervision. Il supervise l'Église avec le pasteur, parce que le pasteur, sans qu'il y ait véritablement une démarcation qui soit plus haut que tout le monde, c'est pas ça. C'est un frère parmi les frères. D'ailleurs, l'apôtre Pierre le dira, hein, moi, ancien parmi les anciens. Je me demande comment il a fait pour se retrouver à Rome. Pierre. Bon, Enfin, l'ancien est celui qui veille sur le troupeau de Dieu en le préservant des dangers. C'est une des premières choses qui est importante de savoir, qui menace l'Église. C'est ce que nous dit le livre des Actes au chapitre 20. Ils ont la responsabilité de la vie communautaire pour que tout se fasse selon la vérité et dans l'unité. Moi, j'ai passé 20 ans avec vous, hein, 18 ans avec vous. Et vous m'avez souvent entendu dire, moi, le but principal de mon ministère, c'est de garder l'Église dans l'unité et dans la vérité qui nous est enseignée. Malheureusement, moi, je crains plus rien aujourd'hui. Hein. Enfin, je peux craindre le Seigneur. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui ne sont plus toujours dans la vérité et qui ne sont plus toujours dans l'unité. Mais c'est comme la vie autour de nous. Regardez comment on est en train de se crêper le chignon de tous les côtés dans le monde. Regardez dans les familles, regardez dans les nations, hein, avec des menaces complètement diaboliques. Et quand on dit qu'on va vous envoyer une bombe nucléaire sur la tête, mais là, il ne restera plus personne. Alors, de toute façon, on ne se fâchera plus. Hein. Alors, c'est ça. Hein. Donc, c'est de veiller à la vie, la responsabilité de la vie communautaire de l'Assemblée. Il dirige en collaboration avec le pasteur et assure le bon fonctionnement de cette Église pour que tout se passe le mieux possible. Mais l'Église, c'est quoi ? Et l'Église, c'est qui ? Ce sont des chrétiens qui sont nés de nouveau. Donc, on pourrait s'attendre qu'il y ait des fruits. On pourrait s'attendre qu'ils soient véritablement respectueux les uns des autres. De pouvoir vivre les choses comme il se doit en tant que chrétien entre nous. Eh oui, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Je voudrais ajouter que l'ancien prie pour les malades, par rapport à l'onction d'huile dans Jacques, par exemple, hein, il nous est bien dit à un moment donné qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour le malade en l'oignant d'huile du Seigneur. Alors, je voudrais vous dire au passage, puisqu'on va prier pour une sœur tout à l'heure, c'est que ce n'est pas l'huile. Hein. On n'est pas à Lourdes, là. Hein. Non, non. Ce n'est pas l'huile qui guérit. Ce n'est pas les anciens qui guérissent. C'est l'invocation du nom de Jésus qui a payé à travers ses meurtrissures le relèvement et la guérison des enfants de Dieu. Alors, vous pouvez mettre de l'huile à n'importe laquelle, hein. Hein, de l'essau, chêle et tout ce que vous voudrez. Voilà. Hein. Plus vous en mettez, plus c'est efficace. Un bidon de 5 litres. C'est ce que j'ai dit à Martine. Voilà. Enfin, voilà. Bon, Martine, tu vas ressortir un petit peu huile, mais... enfin, voilà, donc. Et puis, les anciens sont là aussi pour examiner les problèmes de l'Église, les difficultés, les questions d'affaires, examiner les affaires dans l'Église. Et là, on en parlera tout à l'heure, par rapport aux membres du CA, qui sont aussi disposés à être des accompagnateurs des pasteurs, des accompagnateurs des anciens, même s'ils ne sont pas anciens, parce qu'ils ont une tâche, quelque part, aussi de diacre. On en parlera, d'accord, hein, d'ici quelques instants. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner donc, les affaires. Ils doivent veiller sur leur propre vie, parce qu'il y a un retour aussi. Quelqu'un qui veut être d'influence, quelqu'un qui veut être un modèle, comme Jésus le dit, quelqu'un qui veut être un exemple, attention à sa propre vie. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas être supportées. Maintenant, ce n'est pas à nous de régler les comptes. Hein, parce qu'il peut s'arriver que quelquefois, on ait vu dans les églises eh bien, des gens qui avaient des responsabilités, qui étaient des hypocrites, hein, qui étaient des menteurs, qui pouvaient quelquefois avoir un peu la main légère, parce que bon... S'ils habitent du côté de Bordeaux, il y a quand même un certain breuvage, vous comprenez ? Bon, voilà. Alors, mais c'est vrai, vous voulez être honoré ? Vous voulez être digne ? Non pas qu'on fasse de vous une idole, mais au moins d'avoir un comportement moral qui soit en conformité avec ce que... Écoutez, les pastorales, qu'est-ce que c'est ? Ce qui a été écrit à Tite, ce qui a été écrit à également Timothée, mais c'est ça ! Parce que si on est sorti du monde... Ce n'est pas pour avoir la même attitude que nous avions hier dans le monde, c'est parce qu'il s'est passé quand même quelque chose dans votre vie. Hein. Un bon témoignage, ils doivent veiller sur leur propre vie. Ils peuvent, et dans certains cas, ils peuvent exercer des fonctions de prédicateurs. Nous, ici, on en a eu, on en a un peu moins maintenant, mais on a eu, pour ceux qui s'en souviennent, des prédicateurs que l'on faisait tourner à Saint-Nazaire, que l'on faisait tourner à Redon et que je faisais tourner aussi à Vannes. Et c'était formidable, parce que premièrement, l'Église s'y retrouvait dans tout cela. Parce qu'elle n'avait pas la même tête. Hein, quand vous m'avez vu pendant 18 ans, ça commence à bien faire. Alors vous aviez un monsieur Herpin, vous aviez un monsieur Palusson, vous aviez un Cadère également, il faut bien le dire, un Jean, et puis les uns et les autres, voilà. Ça, c'est important. Je voudrais vous éclairer un peu sur tout ça, parce que c'est quand même un prédicateur et un enseignant. Et quelquefois, il y a des pères qui sont de bons enseignants, quelquefois qui sont peut-être mieux que quelque part des pasteurs attitrés, hein, dans la manière d'en faire. Ils ont leur sensibilité, c'est très bien, hein, quelque chose. Alors, tout cela concerne la direction et l'orientation générale de l'Église à travers la doctrine. Attention, une bonne doctrine, sans être légalisme et sans être libéral, finalement, à tout craint. Hein. Il y en a qui disent, parce que vous êtes converti maintenant, vous faites n'importe quoi, il n'y a pas de problème, le Seigneur vous pardonne, vous repentez, et puis c'est bon, vous repartez. C'est une forme de confessionnal très léger. Hein. Hein. Et puis il y en a d'autres, c'est, comment pourrait-on dire, la rigueur à fond, puis les chrétiens, au bout d'un certain temps, ils sont comme s'ils étaient à la guillotine ou s'ils étaient pendus. Hein. Alors il faut garder l'équilibre, naturellement, hein. Vous comprenez ce que ça signifie. Ça peut être aussi des consultations où là, nous, comme nous avons fait en 2013-2014, quand on a construit cette église, Dieu nous a donné une grâce formidable ici. Quand on voit comment ça a été payé. Moi, je n'étais pas là le jour de l'inauguration parce que j'étais en Alsace faire des conférences là-bas. Et puis, on l'a fait un peu plus tard, mais on l'a fait avec les gens qui ont construit. Et une chose qui est certaine, c'est que ça a été inauguré. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on est là. Eh oui, vous n'avez pas remarqué que vous avez vieilli? Non, c'est bien. Donc, ce qui est formidable, c'est que moi, je sais que j'ai signé le dernier chèque. On a ouvert ici en 2014, juillet 2014, et au mois de septembre, je faisais le dernier chèque au dernier artisan qui a construit tout ça. Sans crédit et sans dette. Eh oui, il y en a qui avaient le ministère aussi, et l'église, autant à Redon qu'à Saint-Nazaire, le ministère de faire cette église, la cœur de faire cette église. C'est pour ça, excusez-moi, hein, ne permettez jamais, mes frères et sœurs, parce que ça nous regarde, c'est vous, hein, aussi, ça vous regarde, que pour réunir tout cet argent, ça a été notre travail et ça a été le sang des chrétiens. Ne permettez jamais, à moins qu'il y ait véritablement une décision d'entente, une décision commune pour dire, eh bien voilà, on va séparer les deux églises parce que maintenant la petite église, elle est devenue une grande. Mais si vous le faites avant, ça s'appelle une division. N'acceptez jamais. Vous me comprenez ce que je veux dire? N'acceptez jamais. Par souci peut-être d'être indépendant, de ne plus avoir... Parce que cette église, elle n'est pas viable, hein, avec les offrandes ici. Parce que vous êtes aidés par Saint-Nazaire. Nous, on a eu, dans mon ministère précédent, on avait une église mère qui était à Angers. Mais on avait aussi deux autres églises, une à Saumur, une à Cholet. Saumur a été payé par Angers, et puis Cholet a été payé aussi par Angers, autrement on ne peut pas y arriver. Parce que si c'est pour entendre des demandes d'argent en permanence tous les dimanches, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas suffisamment d'argent. Moi, je n'ai jamais demandé d'argent, sinon pour les assemblées extraordinaires. Quelquefois, il y a des chrétiens qui sont venus me voir... « Alain, tu ne fais pas assez de demandes d'argent. » Mais je lui dis, « Mais pourquoi je ferais des demandes d'argent? On a ce qu'il faut. » Exactement, tout simplement. « À moi la fortune, à moi les richesses, à moi l'or et l'argent, nous dit Dieu dans Jérémie. » Ben voilà, exactement. Toute la politique de l'Église, elle doit se décider avec les conseillers que nous avons autour de nous, les frères anciens, et puis les diacres. Je crois que c'est quelque chose d'important de pouvoir souligner ça. Je voudrais parler maintenant de l'évêque. Alors, vous n'imaginez pas un évêque comme vous envoyez la cathédrale, hein, de Nantes ou... Voilà. Autrement, je serais venu avec une belle robe, moi, ce matin. Je suis venu en civil. J'ai toujours été en civil. Alors, le mot évêque, c'est le même mot qu'ancien. Alors, naturellement, l'Église catholique a dévié un petit peu les choses en disant, dans un diocèse, il faut des curés, il faut des prêtres, et puis on met à la tête un évêque. Donc, c'est un signe plutôt pompeux, comprenez ? Après, il y a les archevêques, après, il y a les cardinaux, et puis quand vous arrivez en fin de course, là, quand il n'y a plus rien au-dessus de votre tête, eh ben, vous prenez pour Jésus-Christ. Voilà. Le mot évêque, écoutez bien, c'est la fonction. Moi, je ne serai jamais élu pape, hein, je vous le dis. Hein. Vous savez pourquoi je ne serai jamais élu pape ? Parce que je ne me présenterai pas. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et si il y a peu d'élus, c'est parce que ceux qui sont appelés ne répondent pas. Ils ne se présentent pas. Alors, le mot évêque veut dire surveillant, veillant sur, comme ancien. L'évêque est celui qui garde et qui veille sur le troupeau de Dieu. Il est vigilant. Il prêche. C'est un prédicateur. Et il nous est donné une petite remarque dans Actes chapitre 20. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Un évêque, il ne s'est pas autoproclamé évêque. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis en place. Comprenez ? C'est le Saint-Esprit pour paître l'Église, c'est-à-dire pour la nourrir. Ça nous ramène un petit peu au psaume 23. Il me conduit vers de verts pâturages auprès des eaux paisibles, etc. Il y a tout dedans. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Ce sont des économes de Dieu. Il veille à plusieurs choses. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a ces deux catégories de services. La supervision de l'Église, dont font partie les évêques et les anciens évêques, et il y a cette autre catégorie dans laquelle nous allons arriver d'ici quelques instants, c'est un service d'accompagnement, de gestion matérielle, ce sont les diacres. D'accompagnement, de soutien, si vous voulez aller par là. Et c'est quelque chose, donc, qui mérite d'être souligné. Et ils doivent être irréprochables aussi, au même titre que les anciens. Ils ne doivent pas être arrogants, ils ne doivent pas être colères, ni adonnés au vin, moi je lis le texte de la Bible, ni violents, parce que quand on veut régler les problèmes avec des coups de poing, c'est pas très recommandé, ça fait un borgne et puis voilà, tout ce que vous voulez. Ni porter à un gain déshonnête, on ne rentre pas dans le ministère pour se faire de l'argent. Moi, je pense, par exemple, aux églises, pas toutes, s'il y en a des bonnes, il y en a des excellentes, mais dans certains pays anglo-saxons, où le pasteur, moi, ce matin, je serais venu en hélicoptère, parce que j'aurais mon hélicoptère personnel. Oui. Bon, je sais qu'il y a un terrain d'aviation ici, là. Oui. Mais voilà, c'est parce que c'est pour se faire de l'argent. Mais remarquez l'Église catholique, l'Église orthodoxe, quand vous voyez la richesse des monuments, de toutes ces choses-là, vous dites, mais ils ont trouvé cet argent. Ben, ils ont trouvé cet argent à travers les siècles, en spoliant, en détournant les héritages, ou par les alliances qu'ils pouvaient avoir avec les États qui se faisaient la guerre. Il y avait toujours un gagnant et un perdant. Alors, vous savez, en matière de religion, les perdants, les gagnants, ils se mettent toujours de ceux qui ont eu des victoires à la bataille. Ils ne se mettent pas vers les autres. Et ça, c'est quelque chose, donc il faut bien comprendre. Pas de gain déshonnête. Un pasteur qui se présente et qui dit à celui qui va remplacer « Il y a combien d'argent en caisse ?»« Ah oui, il n'y a que ça ? » ?»« Bon, ben, je vais voir un petit peu ailleurs. » Ben non, quand on prend cette tâche-là, on la prend et on assume. Moi, je ne vous dirai pas quand on est arrivé à Saint-Nazaire ce qui restait dans la caisse. Bon. Et ça doit être un modèle pour tous les croyants, naturellement. Les évêques doivent être hospitaliers. Non pas au presbytère, mais peut-être ça suffit dans leur maison. Amis des gens de bien, pas querelleurs, on l'a dit tout à l'heure. Ils doivent être justes, ils doivent être saints. Ils doivent exhorter à la saine doctrine et non pas à des voies sans issue, toutes sortes de raccourcis en disant « voilà, j'ai une révélation, il y a ceci et cela, c'est plus la mode aujourd'hui ». On doit pouvoir rapporter la parole telle qu'elle nous a été enseignée pour nous. Ça ne veut pas dire que c'est une forme morte de faire et de redire toujours la même chose, non? Il peut y avoir des améliorations en fonction de la société dans laquelle on est. Vous savez, on prêche Jésus-Christ depuis des années, depuis 2000 ans, mais une chose qui est certaine, c'est que dans le monde dans lequel on vit, le monde a changé aussi. Hein? Ça, c'est certain. Être capable d'exhorter et de réfuter les contradicteurs. Alors, il faut le faire avec tact, il faut le faire en respectant même celui qui a fauté et le ramener finalement à une réflexion saine. S'il veut, c'est bien, s'il ne veut pas, ce n'est pas la peine de lui couper la tête. Hein. Parce que s'il n'a plus de tête, il ne pourra plus faire grand-chose, hein, de toute façon. Les évêques doivent avoir un bon témoignage dans leur entourage, bien diriger leur maison, et par leur maturité et leur témoignage, ils sont appelés à prendre soin de l'Église. Ça vient du mot grec « épiscope », on l'a dit tout à l'heure, et ce mot naturellement signifie « surveillant », et je le redis, et c'est une personne qui a une fonction de surveiller une Église d'une manière bienveillante et non autoritaire. Eh oui, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui dira au Jacques, je me souviens plus tellement, il dira « mais prenez des précautions, hein, ne faites pas n'importe quoi, ne vous emportez pas, parce que quelquefois on voit et on entend, on est assistant de certaines situations, pour ceux qui ont encore des choses sur la tête, ça nous les fait dresser. Hein. Hein, il y a des choses qui... Alors, ce sont des choses qu'il faut... C'est un modèle, donc, qui est donné, et on doit refléter, l'évêque doit refléter le modèle parfait de Jésus. Son inspiration, ce n'est pas un tel ou un tel, son inspiration, c'est Jésus-Christ. Ah oui, ça c'est clair, hein, c'est pas la peine de chercher à avoir une... Donc un comportement, je résume, avant de passer à... Comment ça s'appelle au diacre. C'est donc quelqu'un qui doit avoir un comportement irréprochable sur le plan moral et spirituel. Oui. Il doit avoir une certaine maturité spirituelle. On ne peut pas confier une tâche de pasteur, pour parler d'eux, d'anciens surtout, et d'évêques, eh bien, à quelqu'un qui serait un petit pigeon de la dernière couvée. Vous comprenez ce que ça veut dire? Eh oui, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, il ne connaît pas les pièges, il ne connaît pas tout ce qu'il peut y avoir qui peut tramer autour d'une église, les puissances mauvaises, enfin, il y a toutes sortes de choses, sans qu'il tombe dans la démonologie. Mais quelque part, il vaut mieux qu'il soit au courant et qu'il ait un petit peu de pratique, hein, pour lui-même. Voilà. C'est un bon témoignage, naturellement, auprès d'abord des chrétiens et aussi des inconvertis. Nous arrivons maintenant aux diacres. Alors, les diacres, c'est un peu particulier, parce que ça vient du verbe qui est utilisé, diakoneo, qui signifie servir. C'est plus un don, ce n'est plus un ministère don de la parole, parce que lui, on ne lui demande pas forcément de parler. Maintenant, il peut dire ce qu'il a envie de dire. C'est pas, il n'est pas muet, hein, naturellement. Et nous voyons que, on pourrait dire, comme Paul le dit, et Paul, qui était pourtant à la fois prophète, pasteur, docteur, évangéliste, et tous les cinq réunis, parce qu'il avait tout, il dira, moi qui suis votre esclave, vous vous rendez compte, hein, quelle modestie, hein, moi qui suis votre domestique en quelque sorte. Hein. Et nous voyons qu'un esclave, eh bien, il est sous la responsabilité de son maître. Le maître lui dit, tu fais ci, tu fais ça, etc. C'est tout, hein, naturellement. Et nous voyons qu'il y a là quelque chose qui est intéressant quand même à souligner. C'est qu'on retrouve ce terme de diacre lorsqu'il a fallu des responsables pour prendre soin, et vous allez vous en souvenir, des besoins physiques, nutritionnels, et matériel dans l'Église primitive, je crois que c'est dans Actes chapitre 6 ou chapitre 5. Vous savez, quand ils ont dit « mettez-moi de côté sept diacres pour que nous puissions prêcher la parole de Dieu et que nous soyons dégagés de toutes ces contingences matérielles. » Prendre soin des besoins physiques. Son rôle du diacre est d'exercer un service au sein de l'Église. Il peut le faire avec restaurant du cœur et tout ça, et personne ne l'empêche, hein, de faire ça. Mais on l'appelle diacre quand il s'agit du caractère religieux, hein, naturellement. De la même manière, et pour cela, le diacre doit remplir certaines conditions, comme par exemple être fidèle à son Église. Parce que s'il est là une fois tous les six mois, ça c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est une grande activité. Hein. Et quand les gens ont faim, quand ils ont besoin de ceci et cela, il doit être rempli du Saint-Esprit. Je crois que c'est Étienne, il nous a dit qu'il était rempli de foi et d'Esprit Saint. C'est vrai ça aussi. De ne pas être à nouveau converti de peur de tomber dans l'orgueil. Vous rendez compte ? Moi, je suis diacre de l'église de Redon, diacre de l'église de Saint-Nazaire. Vous rendez compte la personne que vous avez devant vous ? Attendez, respectez-moi, hein ? Voilà. Il doit avoir un bon témoignage. Et il doit avoir un comportement où on ne peut lui faire aucun reproche. Il est au-dessus de tout soupçon. Enfin, le veut-il ? Le peut-il, c'est autre chose. Mais en tous les cas, s'il le veut, il va pouvoir le faire, parce que le Seigneur va l'aider. Et le diacre sera éprouvé avant de lui confier de plus grandes responsabilités. Voilà, c'est l'histoire, vous savez, du serviteur qui a reçu 10 talents et il en rapporte 10. L'autre qui en a reçu 5, il en rapporte 5. Et puis celui qui en avait 1, lui, il l'a mis dans un mouchoir ou un linge et puis il est revenu lui redonner, il y en avait 1 et c'était pas finalement, il n'avait pas fait le travail. Et Dieu dira, le roi dira, méchant et mauvais serviteur. Faut que ça rapporte, hein. C'était pour voir la fidélité. Pas une question de quantité, c'est une question de fidélité à ce qui est demandé, tout simplement. Il y a un verset qui nous dit ceci dans Corinthiens. Aspirez aux dons les meilleurs. Oui, les dons les meilleurs. Une voie par excellence, c'est l'amour. Et quand on fait le distinguo entre des frères que l'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien moi je dis c'est pas de l'amour. Ça ne peut pas être de l'amour, puisqu'il est dit « aimez-vous les uns les autres ». Et si c'était trop de s'aimer les uns les autres, même l'apôtre Paul dira « eh bien, supportez-vous les uns les autres ben, ». Supporter, ce n'est pas de l'amour encore. Mais c'est déjà quand même quelque chose qui va vers l'amour, faire un effort. Mais quand on ne se parle plus entre nous, eh ben, moi je dis « ce n'est pas de l'amour hein. ». Parce qu'on a tous des qualités et tous des défauts. Parce que, et je termine, l'amour n'est ni un don, ni un charisme. C'est un fruit de l'esprit.
Amen.
Un fruit de l'esprit, mes frères et mes sœurs. C'est un fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est un cadeau et une grâce de Dieu. Et si on n'a pas envie d'aimer, on n'aimera jamais. Par contre, Seigneur, je manque d'amour. Je suis en déficit d'amour. Donne-moi d'aimer. Donne-moi aimer. Il va le donner, puisque c'est le message évangélique principal, il va le donner, Dieu ne va pas nous refuser, il ne va pas nous faire payer quelquefois nos humeurs, nos choses comme ça. Si on est sincère, il n'y a pas de problème. Alors, ils se donnèrent la main d'association. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur, parce que le ministère, ce n'est pas que de chanter des cantiques en se trémoussant ou en... Voilà, peu importe. Mais le ministère pastoral, c'est véritablement un grand souci. Fait avec des larmes et des peines. Fait avec des chagrins, avec des contrariétés, avec des humiliations. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons véritablement te demander que tu suscites dans l'œuvre de Dieu des hommes et des femmes de Dieu qui soient véritablement des responsables, qui soient d'abord à leur place. Parce que si on les a mis à une place qui n'est pas la leur, ils ne vont pas réussir, ça c'est clair. Si véritablement ils ont ambitionné, en effet, une fonction, un titre, eh bien ils ne réussiront pas non plus, parce que ce sont des choses qui se sont octroyées eux-mêmes, peut-être même quelquefois en déchirant. Alors, merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité, merci pour ta parole, parce que nous voyons qu'un homme comme Paul, comme Pierre, comme Jean, et puis dans bien d'autres, parmi les principaux des apôtres, eh bien Seigneur, nous voulons croire qu'en effet, Seigneur, dans tout cela, eh bien, il y a une part de vérité certaine, ou une certaine vérité. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu conduis et tu diriges toutes choses. Merci Seigneur. Parce que si quelqu'un a à se plaindre, qu'il ne se plaigne pas aux des autres, mais qu'il vienne se plaindre à celui qui a véritablement, eh bien, en effet, besoin d'entendre les plaintes de ce plaignant, et non pas de le faire dans le dos, non pas de le faire d'une manière dissimulée. Seigneur, dans le nom de Jésus, Moi, je vais te prier particulièrement pour ceux qui se mettent en colère. Moi, je veux te prier pour ceux qui, quelque part, sont obstinés, pour ceux qui s'entêtent, pour ceux véritablement qui sont, eh bien, là, dans une position, tout simplement, d'obstruction, de rébellion. Nous savons que ça ne peut pas aller très loin. Tu nous l'as rappelé ce matin, que celui qui apporte le trouble emportera la peine. Ça, c'est biblique, c'est pas autre chose. Eh bien, nous voulons te prier pour eux, pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et qu'ils ne confondent pas la spiritualité avec la sentimentalité. Merci, Jésus. La vérité, c'est la vérité et elle se négocie pas. Merci, Seigneur, tu bénis ton peuple, tu bénis ton Église et nous te louons et nous te remercions parce que, en effet, tu as ouvert ta parole pour que nous puissions véritablement et bien la recevoir de tout cœur, avec joie. Merci, mon Dieu. Amen.
Amen. Amen.